marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Bertrand Renouvin, un royaliste en République.
Jusqu'à François Mitterrand, les présidents de la République ont toujours eu le souci de rencontrer et autant que possible d'associer les princes à leurs réflexions. Ils parlaient de la politique française. Je me souviens d'un déjeuner à l'Élysée où en 1987, où le comte de Paris a dit à Mitterrand « Il faut vous présenter, il faut assurer la continuité. »
La voix de Bertrand Renouvin, qu'il entend et il déteste s'écouter. Le nouveau comte de Paris a accueilli hier au château d'Amboise, fief de la famille d'Orléans, Emmanuel Macron. La journée présidentielle était consacrée à une opération de communication. Vinci, Italie, la rencontre a été fugace, peut-être, renoue-t-elle cependant, avec une tradition de la Ve République. L'ancien chef de la Maison de France, Henri, décédé en 1999, le grand-père de l'actuel comte, rencontrait en effet régulièrement le général de Gaulle, puis François Mitterrand qui lui donnait du Monseigneur. D'ailleurs, on peut affirmer d'expérience que le général de Gaulle, avec sa constitution et sa pratique du pouvoir, a relevé le principe de la monarchie en tant que pouvoir arbitral au-dessus des intérêts partisans et des divisions sociales. Et de François Mitterrand, on a pu dire que la cour dont il s'entourait ressemblait à celle décrite par Saint-Simon, mais qu'il a, lui aussi, voulu incarner sa fonction de manière souveraine. Bertrand Renouvin, bonjour donc.
Bonjour Jean Lebrun.
Vous vous inscrivez clairement dans cette filiation gaullienne, vous avez soutenu Mitterrand président, comme d'ailleurs le vieux comte de Paris. Je fais votre portrait de vous, vous commenterez après. Vous avez toujours voulu extraire l'idée royale de l'impasse réactionnaire et nationaliste, où les défaites, la nostalgie, les amertumes l'avaient enfermé. Et comme le comte de Paris, qui avait rompu avec l'Action française de Maurras dès l'avant-guerre, vous avez créé, avec quelques amis, à partir des années 70, une nouvelle action royaliste, c'est un cercle d'affection et de réflexion largement ouvert qui reçoit le mercredi des personnalités diverses. C'est un journal, une présence sur les réseaux sociaux. Et vous êtes toujours le directeur politique de ce noyau persistant.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Bertrand Renouvin, de nouveau. Alors vous détestez vous écouter ?
Oui, comme tout le monde, je pense, non ?
Oui, c'est vrai. Et vous détestez parler de vous, intimement ?
Également, dans la mesure où je représente un mouvement politique, je n'ai pas à parler de moi-même. Je suis en fonction, toujours.
C'est drôle parce que...
Quand je suis à la radio ou parfois à la télévision.
C'est drôle parce que nous parlions de Pierre Goldman, un militant contemporain, au fond.
Oui,
vous
tout à fait.
Vous êtes né en 1943, oui. Un peu dans les mêmes circonstances d'ailleurs. Et Pierre Goldman a mis beaucoup de temps à accepter que pour sa défense, vous n'avez pas commis de hold-up.
Pas du tout.
Soit mise en avant toute référence biographique. Un militant des années 60, écrivez-vous, Bertrand Renouvin, quel que soit le courant dans lequel il s'inscrit, il est pas loin de la guerre froide, il sait que la guerre peut advenir, il sait que la mort et la souffrance peuvent être là demain, et donc ça écarte tout sentimentalisme.
C'est vrai, pour une génération militante, très certainement. Nous n'avons pas voulu, pour beaucoup, nous... paraître utiliser le sacrifice des résistants, le combat de la résistance, et nous avons essayé de faire une politique raisonnée, exempte effectivement de sentimentalisme et sans mettre en avant une expérience familiale, une histoire familiale. Je crois que oui, c'est commun à beaucoup de militants politiques.
Alors on va être dans le rationnel, du moins pour commencer. Charles Maurras, leader de l'Action française, très rationaliste, au point qu'il avait même mis un procédé mathématique pour justifier le catholicisme alors qu'il ne croyait pas en Dieu. C'est pas vraiment votre père. Votre père, c'est le général de Gaulle.
Ah, c'est compliqué. Quand j'étais très jeune, j'ai cru effectivement que Maurras présentait une démonstration tout à fait rationnelle de la monarchie, et j'ai adhéré à cette conception. Il disait la monarchie se démontre comme un théorème. Je trouvais ça formidable. De l'autre côté, il y avait également des marxistes qui trouvaient formidable que Althusser et bien d'autres démontrent rationnellement un certain nombre de projets politiques. Seulement voilà, l'histoire intellectuelle a fait que l'histoire politique a fait que je me suis détaché, comme un certain nombre de mes camarades, de la pensée maurrassienne, et que nous l'avons tout simplement liquidée en créant la Nouvelle Action française, qui est devenue significativement la Nouvelle Action royaliste.
C'était au début des années 70, mais revenons, parce qu'on est dans une émission d'histoire.
Oui.
Qu'il vous arrive de produire des livres d'histoire à 1940, c'est un choix rationnel que celui du général de Gaulle. Vous dites que c'est une réflexion géostratégique, que c'est une réflexion juridique, que c'est un diagnostic rationnel qu'il pose en allant seul ou quasi seul à Londres.
Ben, rationnel, c'est un mot compliqué à définir. Je pense que de Gaulle a répondu à une nécessité qui était celle de continuer le combat, tout simplement. Cette nécessité l'a porté à Londres et a affirmé un certain nombre de principes. Effectivement, ces principes étaient ceux de la République, au sens de la res publica, le gouvernement selon l'intérêt général et pour la défense nationale. Mais bien sûr, il y a, quand on lit les mémoires du général de Gaulle, il y a une part d'affectivité. La France est un pays qu'il aime, qu'il considère comme une personne. Donc il y a cette relation charnelle à la patrie, qui est la mienne aussi, et celle d'innombrables Français. Mais cette relation charnelle à la patrie s'est traduite effectivement par un projet qui était politique, en fonction d'une analyse géostratégique très remarquable, dans la mesure où tout portait, le réalisme invoqué par Vichy, portait à penser que l'Allemagne allait gagner la guerre, étant donné son époustouflante réussite sur le théâtre français.
Néanmoins, une perspective était encore ouverte, qui ouvrait vers la victoire.
De Gaulle pensait que c'était une guerre mondiale, que les Allemands s'étaient embarqués dans une aventure, et effectivement que la France n'avait pas dit son dernier mot à partir du moment où elle continuait de s'affirmer politiquement et militairement.
Premier choix musical de Bertrand Renouvin, est-ce que ça livre beaucoup de vous-même? Triane, Saint 1940, les hommes de l'île de Saint, il y a aussi beaucoup d'autres Iliens bretons qui partent des côtes, s'en vont rejoindre le général de Gaulle qui dit « Nous sommes la France et vous êtes la moitié de la France, vous les Sénans ».
À la fin de juin, 122 hommes de l'île de Saint prennent la mer sur 6 bateaux pour l'Angleterre là-haut, lutter pour la liberté. C'est une France, grande France, lorsque parlait-il breton, que vous importait alors la question? Ils avaient entendu l'appel crier Kentor Mervel, pain franquiste sur l'oxydé. Jean de France,
Jean de France, retenez bien ce qu'on fait pour vous, les gens de Saint. Ils sont la moitié de la France, leur dit le général de Gaulle. Et vous racontez dans un petit livre, Vichy, Londres et la France, qui a été publié il y a peu aux éditions du Cerf, une rencontre entre le grand juriste de la France libre, René Cassin, et le général de Gaulle, fin juin 1940, à l'issue de quoi tous les deux s'exclament « Mais nous sommes juridiquement la France ».
Oui, bien sûr, et ils ont raison de le penser. dans la mesure où la France, c'est une histoire et un droit. C'est une histoire singulière, millénaire, et un droit qui s'est constitué difficilement à travers des épreuves, des révolutions, au fil de cette histoire. Et si on ne respecte pas cette histoire, si on ne s'inscrit pas dans cette continuité historique, et si on n'est pas dans, si on n'essaye pas de maintenir l'état de droit, eh bien, on n'est pas la France. Voilà. Et Vichy, c'est ça. C'est une autorité de fait, à la fois illégale et illégitime. Et c'est ce que montre très bien René Cassin, en 1940, en parlant avec le général de Gaulle. Cassin lui dit, vous n'êtes pas une légion. Intégré à l'armée britannique, vous êtes la France. Et nous avons à reconstituer un gouvernement français, ce qui va se faire progressivement jusqu'à la création à Alger d'un gouvernement provisoire de la République française.
Livre à méditer par les présidents de la République qui ont
tout
succédé
à fait, ils auraient intérêt à le méditer, oui.
Et qui ne prennent pas exactement la suite du diagnostic de Cassin et de Gaulle.
Ils disent même le contraire, surtout Emmanuel Macron.
Mais il faut parler par euphémisme, n'est-ce pas, Bertrand Renouvin? À l'extrême droite, aujourd'hui, on dit que les socialistes étaient innombrables dans la collaboration, ce qui est un peu excessif, mais on ne dit nulle part que les royalistes ont été nombreux dans la résistance. Ainsi, cet hôte du héros du film de Melville, L'Armée des Ombres, si tant est qu'il y ait des héros dans les films de Melville.
Mon hôte maintenant est le baron de Ferté-Taloir, ancien officier de cavalerie, naturellement.
Avant la guerre, j'étais un ennemi juré de la République. J'avais formé avec mes métayers, mes valets de chef et piqueurs, un peloton armé de fusils de chasse et de revolvers, destiné à enlever d'assaut, à cheval, la préfecture voisine en cas d'insurrection royaliste.
Ce peloton parfaitement organisé et entraîné existe toujours et assure ma protection éventuelle.
Et en parallèle de l'histoire du baron de Ferté-Taloir, j'ai en raconté une que vous n'alliez pas raconter, Bertrand Renouvin, c'est un camelot du roi qui n'est pas culotte de peau, hein. C'est un avocat anti-municois dès 1938. Et alors c'est à cause de l'expérience qu'il a des camelots du roi et des groupes francs aussi auxquels il participait pendant la guerre de 39-40, un organisateur extraordinaire d'attentats à l'explosif pour avertir les collaborateurs dans la zone libre pour s'attaquer ensuite aux Allemands. Il se déplace avec une petite valise, une chemise, un réveil matin et un pain d'explosif dans la valise et il réussit l'exploit à plus d'une reprise de faire commettre des explosions à plusieurs endroits en France. Ça s'appelle les kermesses et c'est votre père.
Tout à fait, oui. C'est un de ceux qui ont commencé la résistance dès 1940. Ma mère aussi, d'ailleurs, ils ne se connaissaient pas, mais ma mère, dès juin 40, a décidé d'entrer dans ce qu'on a appelé plus tard la résistance, de refuser l'occupation allemande. Tout
mais
simplement.
On va faire comme Pierre Goldman au début de sa défense. On ne va pas raconter ce qu'il est advenu de votre père, déporté à Mauthausen pendant que votre mère est prisonnière. Et c'est à ce moment-là que vous naissez. C'est une injonction muette, l'exemple de vos parents.
Très certainement. Muette, c'est le bon mot, puisque dans ma famille, et avec ma mère notamment, je ne parlais pas, on ne parlait pas de ce qui s'était de la guerre, très peu, anecdotiquement. Je n'en parlais pas non plus avec mon oncle Pierre Renouvin, pas plus qu'il ne parlait.
Grand historien,
la
Sorbonne est blessé
combattant,
de 14.
Blessé en 17, après 3 ans de guerre, il n'en parlait jamais. Donc il y avait un silence, qui est également le silence des déportés. Je suis membre de l'amicale de Mauthausen et je peux également en témoigner. Il y a un silence, mais comme dit Jean Kelevitch, il faut écouter les silences. Donc, c'est ce qu'il faut faire encore aujourd'hui.
Jean Kelevitch, que vous avez lu jeune, vous étiez mauvais élève.
J'ai été très mauvais élève, j'ai obtenu difficilement mes diplômes, mais comme j'étais mauvais élève, j'ai continué à travailler toute ma vie. J'ai repris des études
de philo, justement.
Après avoir fait Sciences Po, mais j'ai donc lu les philosophes, j'ai découvert avec joie Jean Kelevitch, qui est un de mes philosophes préférés, qui a été résistant et qui a écrit sur la résistance et sur les camps de concentration.
C'est drôle parce que vous reprenez des études de philo en 78, après en avoir fait d'autres à Sciences Po beaucoup plus tôt, et vous aviez déjà été candidat à la présidence de la République quelques années après, quelques années avant, et ils ont dû être étonnés, vos maîtres.
Il y a eu un petit peu d'étonnement, mais c'est moi qui étais embarrassé, parce que je me retrouvais sur un banc de la Sorbonne, devant Jean-Luc Marion, qui expliquait l'éthique de Spinoza, et c'était compliqué pour moi, il a fallu que je reprenne une réflexion que j'avais à peine en pendant mes études de terminale.
Vous acceptez la notion de maître ?
Tout à fait. J'ai des maîtres excellents, vivants et morts. Je pense à François Perroux, je pense à Claude Bruer, également philosophe. Je pense à Raphaël Drey, qui m'a appris à réfléchir sur la Bible. À bien d'autres encore, la liste est très très longue.
Un royaliste croit à la transmission, nécessairement. Alors revenons justement au royalisme. Le comte de Paris n'a pas fait le choix de Londres, il était à Alger, on va pas épiloguer, c'est trop long. Il est en exil et la loi d'exil est enfin abrogée au début des années 1950 et le voilà qui revient sur la scène française où il brûle de jouer un rôle en politique, ce que les journalistes ne comprennent pas toujours très bien.
On sait que la République française a, voici quelques années, abrogé la loi qui interdisait l'accès de la France aux descendants des anciennes familles régnantes.
À la suite de l'abrogation de la loi d'exil, le comte de Paris et sa femme, la princesse Isabelle, comme de simples bourgeois en vacances, redécouvrent dans le petit port de Cancale le ciel clément de France. Près de cette côte que ne troublent plus les souvenirs de Chouannerie, l'arrière-petit-fils de Louis-Philippe oublie les longues années d'exil.
La famille Renouvin aura été sensible à l'évocation de la Côte d'Émeraude, puisqu'elle connaît bien la Rance.
Tout à fait.
Dites-moi, c'est pas un simple bourgeois. Il a des relations très suivies avec le général de Gaulle. Il imagine même que la transmission pourrait se faire entre le général de Gaulle et lui. Et puis ensuite, il va avoir des relations dont vous avez été le témoin, excellentes, avec François Mitterrand.
Oui, mais quant aux relations avec le général de Gaulle, j'en avais également parlé avec Edmond Michelet, qui était compagnon de mon père, qui lui est sorti vivant des camps de concentration, et que j'ai vu à de nombreuses reprises au début de la Ve République. Mais ensuite, effectivement, j'ai rencontré François Mitterrand, je connaissais assez bien le comte de Paris, et nous avons parlé de l'histoire, du rôle de la famille de France dans cette histoire et dans le monde présent.
Un royaliste en République. François Mitterrand accepte en 1987 de prendre la tête du comité du millénaire capétien. Une cérémonie a lieu à la cathédrale d'Amiens. Mitterrand avait dit pas trop de cathédrales quand même pendant le millénaire. Et dans cette cérémonie, le président de la République et le comte de Paris sont de part et d'autre au premier rang dans l'allée centrale.
François Mitterrand ouvrait hier soir dans la cathédrale d'Amiens l'année du millénaire. C'est en effet en Picardie que fut couronné en l'an 987 le premier roi de France, Hugues Capet. Aux côtés du président Mitterrand, l'actuel héritier de la couronne de France, le comte de Paris, pour qui la célébration de ce millénaire est à la fois une histoire de famille, une histoire tout court, l'histoire, et aussi un événement politique.
Dieu merci, cette année, le millénaire va être célébré d'une manière grandiose et ce sera, j'espère, les retrouvailles de la France avec son histoire.
Et ça se passe au moment où le président de la République est socialiste. Comment vous vivez ça ?
Moi, je le vis très bien parce que c'est un homme de grand courage, de grand mérite et qui a certainement une hauteur de vue qui lui permet de remplir cette tâche avec beaucoup de dignité et de grandeur.
Est-ce que vous y voyez, 1000 ans après le couronnement du Capet, une sorte de réconciliation entre la monarchie et la République ?
Je l'espère. Si c'était ce signe-là, j'en serais ravi.
Et en échange, deux ans plus tard, en 89, le comte de Paris va participer aux célébrations du bicentenaire de la Révolution française. Alors expliquez-nous le sens de ces signes échangés, Bertrand Renouvin.
Ce sont plus que des signes, c'est une relation à l'histoire de deux hommes qui sont dans l'histoire de France, qui la connaissent bien. Mitterrand, oui, socialiste, c'est vrai, mais homme vivant avec l'histoire. La première fois que je l'ai vu, il m'a tendu une petite brochure très ancienne sur le règne de Philippe Auguste. Voilà, il lisait cela, c'était sur son bureau, et il connaissait remarquablement bien l'histoire de France. Donc il a paru assez naturel, en fait, que l'État, à ce moment-là, en 1987, célèbre le millénaire capétien. C'était une façon d'assumer l'ensemble de l'histoire de France. Et le comte de Paris, justement, au revers de la caricature, est un homme qui assumait lui aussi toute l'histoire. La monarchie d'Ancien Régime, la Révolution française, et le futur Philippe Auguste avait joué un rôle éminent en combattant à Valmy et à Genappe. Le futur Louis-Philippe. Donc il assumait tout cela et il considérait que, le comte de Paris considérait que la Ve République était une monarchie républicaine. C'était pas le seul d'ailleurs, beaucoup de juristes l'ont dit, et cela répond effectivement à la vérité. C'est une monarchie élective dans un état de droit res publica.
Un pouvoir légitime, pour vous, c'est un pouvoir, et le pouvoir monarchique, pas celui de Louis XIV, mais le pouvoir monarchique traditionnel en est un bon exemple, qui est arbitral, qui est au-dessus des intérêts partisans et des distinctions sociales, des distinctions de classe.
Exactement. D'ailleurs, Marx le dit lui-même, qu'à un moment, la monarchie, oui, effectivement, au contraire de la théorie qu'il soutenait, est arrivée à représenter cela, cette idée d'arbitrage au-delà des classes sociales. Et c'est ce que tente d'établir également la constitution de la Ve République, c'est-à-dire une présidence qui soit effectivement arbitrale, en charge de l'essentiel, comme le dit le général de Gaulle, donc en charge de l'histoire et du prolongement de l'histoire dans le moment présent.
Sans que soient travesties les valeurs traditionnelles, je cite un texte de soutien du comte de Paris à François Mitterrand en 1988, où il s'inquiète des succès de Jean-Marie Le Pen, représentant d'un courant autoritaire et xénophobe.
Tout à fait. Le comte de Paris a pris des positions très fermes dès avant la guerre, en condamnant l'Action française parce que c'était un mouvement d'extrême droite qui caricaturait l'idée monarchique. Et effectivement, le comte de Paris, au nom de sa tradition, ne pouvait pas accepter la propagande xénophobe, hostile au principe du droit du sol, qui est un principe de la monarchie depuis les années 1515, n'est-ce pas ? Donc tous ces principes fondamentaux de notre histoire et de notre droit ne devaient pas être récusés, et c'est ce que le comte de Paris a dit très clairement à cette époque-là.
Bon, je crois que le comte de Paris a soutenu jusqu'au bout François Mitterrand, vous aussi. Je suis pas sûr que le comte de Paris n'ait pas été tenté de voter non au référendum sur Maastricht, parce qu'on va en venir à l'Europe maintenant, Bertrand Renouvin.
Il a effectivement voté non à ce référendum, oui.
Mais François Mitterrand, il avait de l'Europe une conception qui peut vous intéresser, parce que à un moment X, en 89-90, il défendait une confédération européenne qui n'a pas vu le jour, le projet est mort-né, et qui aurait intégré la Russie qui quittait le communisme. Alors la Russie, on va y venir, et le deuxième morceau musical est peut-être plus étonnant. On n'attendait pas de Bertrand Renouvin, DDT.
Tout à fait.
Un groupe pétersbourgeois.
Oui.
Bon, alors c'est à vos risques et
périls. Rock russe.
Мы из впереди крылом. Я тону, и мне в этих пустяках. Ты рюмка на столе, ты небо на руках.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Allez Bertrand Renouvin, fendez l'armure. Je sais que vous adorez cette expression issue du monde de la communication.
Oh là là, oui, j'adore. Oui.
Racontez-nous votre Russie.
Ah, mais pas seulement la Russie, parce que c'est la grande Europe qui me passionne. Après la chute de l'Union soviétique, François Mitterrand avait dit « il faut faire une théorie des ensembles européens ». Et je l'ai pris très au sérieux. C'était effectivement l'idée de Confédération européenne. J'étais au Conseil économique, vous vous en souvenez, puisque vous m'avez invité à deux ou trois reprises.
Ah, vous aviez été nommé au Conseil économique et social.
Mais j'y ai travaillé beaucoup. J'ai essayé de faire une théorie des ensembles européens à travers deux rapports sur les relations entre la France et les pays de l'Europe centrale et orientale, Russie comprise. Mais effectivement, la Russie fait culturellement partie de l'Europe, et il ne faut pas non plus oublier les autres pays qui aujourd'hui sont exclus. La plupart, beaucoup de pays des Balkans. J'ai été un passionné, un grand amoureux de la Yougoslavie, où j'ai fait dans ma jeunesse et même jusqu'en 1989, une quinzaine de voyages au moins. Je connaissais le pays vraiment très très bien. Et effectivement, la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, l'Albanie, les pays d'Europe centrale et orientale, la Russie font partie du même monde. Et c'est ce que j'avais essayé de culturel, civilisationnel, et c'est ce que j'avais
jusqu'à
essayé
l'Asie
de dire.
Jusqu'à
l'Asie centrale, qui est également pénétrée par la situation, par la civilisation européenne, dans la mesure où l'on récite Pushkin, jusqu'à la frontière de Chine, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, pays que je connais bien, et où l'on continue à écouter DDT. DDT, ça me rappelle les routes d'Asie centrale, et en voiture, on écoute comme ça des chansons russes, ou des chansons tadjiques, ou des chansons ouzbèques, et il y a ce qui m'avait beaucoup plu, c'était ce mélange des cultures, une jeune génération qui connaissait aussi bien Pushkin que le Livre des Rois, le grand récit fondateur de la Perse. Donc voilà, l'Europe, elle est sans rivage, comme le dit François Perroux, elle va très très loin parce qu'elle porte, sa civilisation porte très très loin.
Jusqu'à la Turquie ?
La Turquie fait partie de l'ensemble européen pour des raisons géopolitiques, parce que, tout simplement, la Turquie, depuis très longtemps, depuis le XVe siècle, participe de l'équilibre européen. Et la France le sait très bien, puisque nous avons été très longuement alliés avec la Turquie contre l'impérialisme autrichien qui nous menaçait.
Donc vous attendez que se décompose la plus petite Europe ?
Elle est en train de se décomposer, c'est très certain. Et après, il ne faudra pas se replier derrière ses frontières. Il faudra réenvisager la grande Europe sous une forme souple, sous une forme confédérale. Et justement, à partir de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire une culture commune. Une immense histoire commune, conflictuelle, mais également avec la philosophie, la musique, la littérature.
Ce que vous appelez, parce que vous avez une grande culture de gauche aussi, l'international des nations.
C'est l'international des nations, mais ce n'est pas un terme de la gauche, je ne pense pas.
Oui, parce que le royaliste fédère, et un royaliste est toujours dans l'attente. Merci à vous Bertrand Renouvin, je rappelle que votre dernier livre c'est Au Cerf Vichy, Londres et la France. Cette émission, je l'ai dit, a été réalisée par Juliette Medviel, avec à la préparation Frédéric Martin, Arnaud Caillet à la technique. Et chez vous, Mathieu Vidard ?
Oui, Jean, il y a du monde. C'est le club de la tête au carré. Des
Tésards. 2, 3, 4, 8, 5, 6.
8 personnes autour du micro.
Ah bon, il m'en manque 2. 8 personnes.
Oui, oui. On va parler de plein de choses. Moustiques et virus, le merveilleux scientifique et ma thèse en 180 secondes.